Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Pas de vacances pour les avocats de Cupertino ni ceux de Bruxelles. Le conflit entre Apple et la Commission européenne s'est envenimé ces derniers jours. D'un côté, l'une accuse l'autre de ne pas respecter le DMA, et de l'autre, Apple accuse la Commission de restreindre l'innovation. Qui a raison ? On va essayer de trouver la réponse avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Beats relance un de ses produits cultes, les appareils Apple n'échappent pas aux soldes et on vous expliquera comment fonctionne le vote par internet pour les Français de l'étranger. Voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Tout d'abord, merci à Félix pour le remplacement la semaine dernière. Je dois dire que j'avais le Covid. Et ouais, c'est comme les élections quand on croit que c'est terminé. En fait, surprise, bah ça recommence. Salut Christophe, ça va ? Pas de Covid pour toi ?
Salut Stéphane. Non, moi ça va très bien, y a pas de souci. J'espère que ça va mieux pour toi.
Oui, ça va mieux, oui. Quelques jours avec de la fièvre, des maux de tête, mais bon, c'est passé. On va parler d'un thème récurrent depuis le début de l'année. Je parle bien sûr du DMA, la législation européenne sur les marchés numériques. Alors la semaine dernière, Apple a annoncé le vendredi soir qu'Apple Intelligence ne serait pas disponible cette année en Europe à cause du DMA. Selon l'entreprise, le DMA fait peser des incertitudes réglementaires sur cet ensemble de fonctionnalités, ainsi que sur la recopie de l'iPhone et sur le partage d'écran de SharePlay. Alors pour remonter encore le fil, le lundi matin, nouveau rebondissement, la Commission européenne accuse Apple de ne pas respecter plusieurs règles du DMA. En l'occurrence, Bruxelles reproche à Apple de ne toujours pas permettre aux développeurs de communiquer librement avec leurs utilisateurs. Elle reproche aussi à Apple de prendre une commission sur les achats effectués hors de l'App Store. Et en parallèle, la commission a ouvert une nouvelle enquête sur les conditions contractuelles d'Apple, notamment sur le Core Technology Fee. Et puis, quelques heures plus tard, le lundi soir, Apple a publié une nouvelle bêta de macOS Sequoia et d'iOS 18. Et alors, comme elle l'avait annoncé, eh bien, la recopie d'iPhone est bloquée en Europe. On a quand même trouvé une petite astuce hein, pour y accéder dès maintenant. Il faut se connecter à l'App Store avec un compte hors Union Européenne. Vous trouverez les détails sur Mac Génération. Christophe, est-ce que le DMA empêche vraiment Apple de proposer ses fonctionnalités en Europe ?
Wow.
Grosse question, hein.
Ouais, on se croirait un peu au bac. Il n'y a pas une étude de texte, plutôt ? Sinon, autre question qu'on pourrait poser, c'est quel est le plus faux cul dans cette affaire, Apple ou l'Union Européenne ? On va essayer de répondre point par point à cette question. Alors, le premier point, le plus évident pour tous, c'est que Apple Intelligence, notamment, ne fonctionne pas dans les différentes langues européennes. Donc, quelque part, c'est un non-sujet. Apple, dès le début, l'a fait savoir à la WWDC que ça n'arriverait pas avant 2025. Remarque, rétrospectivement parlant, on peut se demander si c'était un blocage purement technique. Ce qu'on avait cru comprendre, enfin un blocage technique, que ce n'était pas au sommet de la feuille de route et qu'Apple cherchait d'abord à bien le faire marcher en anglais avant de le décliner dans d'autres langues.
C'est souvent comme ça, oui.
Oui, c'est très souvent comme ça, effectivement. Ou si c'était déjà lié à, on va dire, une quelconque régulation de l'Union européenne. Enfin bref, en tout cas, ce n'est pas prêt avant 2025, donc voilà, et Apple a le temps de faire la démarche. Deuxième point, ce qu'on a pu constater, c'est justement du fait du DMA notamment, il y a également souvent eu du délai chez les concurrents d'Apple. On l'a vu par exemple pour Copilot spécifiquement dans Windows. Gemini est également arrivé, je crois, un peu plus tard chez nous en Europe. Donc, quelque part, il n'y a rien d'étonnant en soi. Alors, on sait que la Commission européenne veut un droit de regard sur ces nouvelles technologies, mais bon, en connaissant Apple et sa culture du secret, elle n'a pas souhaité le faire avant la présentation à la WWDC. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, les relations entre l'Union européenne et Apple sont plutôt orageuses. Est-ce qu'à l'avenir, il y aura un dialogue qui saura s'instaurer, qui permettra à ce que certaines technologies sortent plutôt chez nous ? On verra ça plus tard. Pour finir, moi je trouve quand même que la communication des deux parties, que ce soit Apple ou l'Union européenne, les communications sont assez étranges. Donc, Apple donne l'impression vraiment de bouder dans son coin. Elle a fait cet effet d'annonce un vendredi soir dans le Financial Times. Ouais, c'était vraiment, oui, on n'est pas d'accord, on n'est pas content avec ça. Ceci dit, moi je crois qu'il y a aussi, on va dire, le département juridique un petit peu aux manettes, qui, malgré tout, a une, sans doute une certaine méfiance, voire une peur du DMA. Peut-être de voir... peut-être une crainte des, voilà, peut-être des effets de port qu'elle n'aurait pas imaginé ou anticipé, se dire, attends, il y a peut-être ça qui peut nous tomber sur la figure, il faut faire attention, mieux vaut être très très prudent. Ça, c'est aussi quelque chose, à mon avis, qu'il ne faut pas, qu'il faut prendre en compte, à mon avis. Et puis, bah, oui, alors, il y a aussi l'attitude de la Commission, enfin, de l'Union européenne, qui est limite puérile. On fanfaronne, on se félicite de faire peur à Apple. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, je sais pas, je trouve ça, je suis assez, comment dire, dubitatif par rapport à tout ça. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la personne qui trinque, c'est le consommateur. Bon, à la limite, on survivra à ne pas pouvoir totalement utiliser Apple Intelligence pendant quelques mois, c'est pas un souci. Moi, malgré tout, le point qui m'inquiète, on va dire, en tant que citoyen européen, c'est qu'on régule. On régule à tout va. On fait, enfin, ce que fait l'Union européenne avec le DMA, c'est du protectionnisme juridique. Et donc, ce qui fait que souvent, quand il y a du protectionnisme juridique, il y a des zones d'ombre. Et on l'a vu depuis qu'on suit cette histoire relativement près. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi e-message n'est pas du tout concerné par le DMA. Je ne comprends toujours pas pourquoi iPadOS au début n'était pas concerné par le DMA. Et puis un beau jour, ah oui, non, mais à cause des ventes extraordinaires de tablettes, tout d'un coup, voilà.
Alors qu'on regarde, ça a changé, oui. iPadOS, là, du coup, Apple cette semaine aussi a annoncé, voilà, que iPadOS 18 allait se plier au DMA. Ouais.
Exactement, ouais. Alors voilà, on régule, et j'ai un peu peur que dans quelques années, on regardera tout ça avec un peu de recul, on se dira, tiens, on a régulé, mais on a peut-être un peu oublié d'innover, et résultat, on a aussi perdu la bataille de l'intelligence artificielle. Et ça, ce sera vraiment embêtant.
On va passer à un tout autre sujet, on va parler de Beats, qui a présenté cette semaine un nouveau produit. C'est le retour de la Beats Pill, une petite enceinte Bluetooth qui était très populaire. Ce nouveau modèle est plus léger, plus compact et le son a normalement été amélioré. La prise Lightning a aussi été remplacée par de l'USB-C, on s'y attendait. Cette nouvelle Beats Pill sera disponible cet été à 170€. En parlant de Beats, on a fêté récemment le 10e anniversaire de l'acquisition de Beats par Apple. Enfin, on n'a pas fait de grosses fêtes avec Dr. Dre et Jimmy Iovine, mais ça fait bien 10 ans que Beats appartient à Apple. Et oui, déjà 10 ans. Avec le recul, Christophe, est-ce que Apple a bien fait d'acheter Beats ?
De toute façon, c'est quoi 3 milliards de dollars ? Oui. C'est rien par rapport à certaines emplettes de Microsoft qui dépensent des dizaines de milliards de dollars pour des sociétés intéressantes également. Mais voilà. Apple avait complètement raté le virage du streaming à l'époque, mine de rien. Alors l'acquisition de Beats lui a permis de refaire son retard, mais sans doute pas assez rapidement. Mais il faut aussi reconnaître que si l'on regarde tous les grands services payants d'Apple, Apple Music est, on va dire, le plus populaire, celui qui fait quand même, qui réalise un chiffre d'affaires relativement important. Donc oui, malgré tout, on va dire que c'est une réussite. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec Beats, c'est l'utilisation qu'Apple en fait d'un point de vue matériel, notamment avec des casques et des enceintes et ce genre de choses. Avec ces produits-là, Apple s'en est jamais trop caché, hein, elle cible davantage les utilisateurs Android. Et elle vend d'ailleurs peut-être des produits à des gens qui ne peuvent pas du tout encadrer Apple. C'est ça que je trouve ça très marrant. Voilà, mais... Enfin, ça, on en avait déjà discuté au niveau de la rédac. Moi, je regrette... Enfin, j'aimerais bien que Apple aille un peu plus loin avec la marque Beats. Enfin, c'est ce qu'on avait dit. Moi, j'adorerais qu'Apple ou Beats sorte une Apple Watch Beats. Et vraiment, la sauce Beats, avec un design différent, avec... Voilà, avec des cadrans excentriques, avec des gros bracelets, et même peut-être même une apparence un peu différente de ce qu'on connaît de l'Apple Watch. Ce serait marrant, ce serait intéressant, et peut-être que ça doperait les ventes. J'en sais rien, mais voilà. Si Apple manque d'idées pour l'Apple Watch 11 ou 12, voilà, prenez.
Vous l'avez peut-être remarqué, ce sont les soldes en ce moment. C'est devenu une habitude, de nombreux produits Apple sont en promotion durant cette période. Alors, du côté des Mac, il y a notamment le MacBook Air M1 à seulement 799 €, c'est chez Cdiscount, et le MacBook Air M2 15 pouces à 1099 €. C'est aussi les soldes chez les opérateurs. Il y a vraiment des offres exceptionnelles depuis quelques semaines. Là, je pense à un forfait 5G, 200 gigas à 10 € chez SFR Red. En fait, après une énorme perte d'un demi-million d'abonnés mobiles au premier trimestre, SFR a relancé une bataille des prix pour essayer de gagner des clients. Et pour en revenir aux produits Apple, il y a aussi des iPhone 12 à moins de 500 €. J'ai aussi vu un iPhone 15 à 799 €. Pour le coup, c'est 170 € de moins que chez Apple et c'est aussi le prix le plus bas jusqu'à présent. Mais est-ce qu'un iPhone 15 en promo, ça vaut vraiment le coup?
Tu me relances sur le papier que j'ai fait en début de semaine. Bah écoute, oui. Je vais pas me dédire. J'ai dit non et non, 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 non. Il faut quand même partir du principe qu'un iPhone, c'est devenu un achat de long terme. On garde un iPhone, à part à quelques exceptions près, au minimum 2-3 ans. Donc voilà, et c'est toujours délicat en plus d'acheter, on va dire, un iPhone l'été lorsqu'on est à quelques semaines du renouvellement de la gamme. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la WDC et maintenant on connaît les cartes d'Apple. Et voilà, Apple n'a pas fait de mystère. Apple Intelligence, bon, qui arrivera certes qu'en 2025 chez nous, ne fonctionnera pas sur ces modèles. Il sera réservé donc uniquement aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et pour moi, l'arrivée d'Apple Intelligence dans iOS, ça va marquer une véritable césure. Il y aura les iPhone qui l'ont et les iPhone sans. Alors, pour répondre à ta question, à un prix vraiment défiant toute concurrence, on peut l'envisager. Mais bon, 799 €, c'est quand même pas rien. Mmh. Alors, pour répondre à ta question, c'est comme acheter un iPhone 15 maintenant, c'est comme acheter un Macintosh Intel 2 mois avant la commercialisation des premiers Mac Apple Silicon. Mais après, tu peux le faire et il y a des gens qui l'ont fait et qui sont très contents et voilà. Je pense, et même si les gens sont, il y a un certain scepticisme, je pense qu'on fera certaines choses avec certaines apps d'ici 2-3 ans et on se regardera et on se dira mais comment c'était possible avant.
C'est ça, parce qu'Apple Intelligence, même si ça paraît bien et très prometteur tout ça, c'est, ça paraît en même temps assez loin. Pour nous autres Européens, on sait que ça n'arrivera pas avant 2025. Et puis, on n'a pas encore pu tester les fonctionnalités. Donc, c'est...
Ah, on achète une promesse, c'est clair.
C'est ça, c'est une promesse. Donc, est-ce que la promesse vaut le coup?
Je pense qu'il faut quand même revoir certaines démonstrations d'Apple pour AWDC, notamment de l'application Note, même si c'est sans doute plus pertinent sur un iPad que sur un iPhone. Et Apple n'a pas fait de mystère, elle va vraiment jouer cette carte à fond. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant par rapport à tout ça, c'est que souvent, avec Apple Intelligence, Apple y va fort avec ses histoires d'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Bon, on l'a vite compris, il y a notamment une histoire de mémoire vive disponible. Mais par exemple, il y avait eu, on va dire, une certaine résistance et beaucoup plus de gens qui s'étaient plaints, c'était il y a 2 ans, je crois, avec Stage Manager sur les iPads. Mmh. Et là, on a l'impression que le fait que ça soit réservé à une poignée d'iPhone, c'est quelque chose qui, pour l'instant... On va dire, ça passe plutôt crème. Mais peut-être que lorsque
Pas mal quand même de commentaires de personnes déçues de pas qui ont acheté un 14 Pro ou un 15, qui se disent, ah bah mince, je vais pas avoir les dernières fonctions, quoi.
Oui, non, mais que les gens soient déçus. Mais il y avait vraiment, je trouve, à l'époque de Stage Manager, un vrai mouvement de protestation. Mais peut-être que ça se comprend plus, parce que finalement, Stage Manager, c'est juste un gestionnaire de fenêtres. Tu peux dire, ah oui, mais alors c'est quoi, enfin... J'ai un processeur à 16, un système sur puce à 16 ou à 17 ou à 15, qu'est-ce que ça change, quoi.
D'ailleurs, Apple était revenu un petit peu en cours de route sur la compatibilité aussi de Stage Manager avec certains iPads. Ouais. On va terminer le tour de l'actu avec les élections législatives. On ne va pas se lancer dans un débat politique, ne vous inquiétez pas. On va parler du vote électronique. Les Français qui vivent à l'étranger ont la possibilité de voter par Internet. Ce n'est pas une obligation. Hein. Il y a des bureaux de vote un peu partout dans le monde, mais certains expatriés sont assez éloignés de ces bureaux. Alors pour cela, il y a le vote électronique, une solution plus pratique. Christophe, toi tu résides à l'étranger et tu as testé le vote par Internet. Alors comment ça fonctionne ?
À voter. Oui. Non, mais c'est sûr qu'on va pas parler de politique, surtout que au moment où le podcast sera publié, je crois que la campagne législative, en tout cas pour le premier tour, sera close. Donc voilà.
C'est ça.
Je vais vous expliquer en tout cas mon expérience. Donc, on a reçu rapidement un mail de France Diplomatie pour nous dire qu'il serait possible de voter électronique et par Internet. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant parce que peut-être par rapport aux autres fois, c'était beaucoup plus mis en avant. Alors, il y a eu des petits couacs. Alors, moi, le petit couac que j'ai eu, c'est que j'ai reçu en premier, tout d'abord mon SMS, mon mot de passe par SMS. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, franchement, je me suis posé la question, est-ce que c'est du phishing ou je ne sais quoi? Ouais. Et puis alors, voilà, deux ou trois heures plus tard, j'ai reçu cette fois un mail sur mon adresse personnelle en me disant, voilà, donc, voici votre identifiant pour aller voter. Vous allez recevoir votre mot de passe par SMS. Voilà, vous avez une période de 2 jours pour voter. Voilà. Donc ça, c'était, je pense, quelques 48 ou 72 heures. Ah oui, non, c'était la semaine dernière. C'était 4 ou 5 jours avant le vote.
Ouais, parce qu'on peut préciser dès maintenant qu'en fait, le vote par Internet, tu l'as réalisé, c'est pas ce week-end, c'était il y a quelques jours avant.
Oui, ouais, c'était mardi, oui, c'était, je crois que mardi ou mercredi en milieu de journée. Donc il y avait effectivement, comme je disais, 2 jours pour voter, donc je me suis connecté 2 ou 3 heures après le début des votes. Alors j'ai eu plutôt de la chance, moi j'ai eu aucun souci à me connecter, à voter, tout a fonctionné de manière relativement fluide, donc concrètement il suffit d'aller sur un site portail, après il suffit de choisir sa circonscription, après tu as la possibilité de regarder tous les programmes, et puis après tu as un bouton « Je vote ». Donc là, quand tu cliques, il te suffit d'insérer tes identifiants et ton mot de passe, enfin ton identifiant et ton mot de passe. Tu choisis ton candidat ou ta candidate, ou tu votes blanc si tu le souhaites, puis tu votes. Là, tu reçois donc un code de confirmation par mail. Ça, par contre, ça a mis un peu de temps à arriver. Et donc, une fois que tu as saisi, ben voilà, tu as voté. On ne te demande pas. Par contre, si tu veux dépouiller, ça va beaucoup plus vite. Par contre, à la place, tu reçois un cachet électronique qui permet, si on souhaite, de vérifier que tout s'est bien passé. Je répète, dans mon cas, tout s'est bien passé. Quand on a posté l'article, on a eu le droit à... Enfin, il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui ont eu... Enfin, certains ont eu des problèmes. Alors après, c'est toujours difficile de savoir quel est l'échantillon de personnes. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a eu énormément de gens qui ont voté de manière électronique cette fois-ci. Donc peut-être qu'il y a eu des soucis au début pour... anticiper, on va dire, la charge et les serveurs nécessaires pour mener tout ça à bien. Et puis, enfin, voilà, moi, par contre, alors, ce qui est très étonnant, c'est que, donc, moi, j'ai tout reçu pour, voter par Internet, et ma femme qui avait fait, je pense, enfin, je suis quasi sûr, les mêmes démarches que moi, elle n'a rien reçu, si ce n'est un mail de relance, mais le mail de relance, je crois qu'il est arrivé limite après... La période pendant laquelle on pouvait voter. Donc tout n'est pas parfait encore. Voilà, alors c'est malgré tout très intéressant parce qu'il y a une vraie réticence par rapport au vote électronique. Moi je précise que je ne suis pas forcément un apôtre de ça, je suis, j'ai pas forcément un avis très tranché là-dessus, mais je pense que malgré tout ça peut être un outil intéressant pour nos démocraties. Alors, pas forcément, on va dire, pour des... Enfin, je comprends que... Imaginons qu'on mette ce dispositif en place pour les élections présidentielles de 2027. Je peux comprendre que ça puisse faire peur. Et que
oui, il y a des questions de sécurité, de confidentialité, de transparence.
Tout à fait. Ça, ouais. Mais par contre, au niveau local, on insiste beaucoup sur, on va dire, les référendums, sur les... pour répondre à, on va dire, à des questions bien précises. C'est ce qui notamment, il s'était notamment passé ça, je crois, à Paris, pour les SUV. Il y avait eu quelque chose en tendance ce goût-là. Et le truc qui m'avait un petit peu interpellé à l'époque, c'est que le taux de participation, il était de 5 ou 6%. C'est quelque chose dans cette fourchette-là. Alors, est-ce qu'il faudrait pas, de temps en temps, effectivement, interroger plus souvent les citoyens sur certaines questions? Enfin, voilà, quand c'est du local, ça peut peut-être aussi être une manière de, enfin, dire, d'apprivoiser cet outil et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire.
Eh bien, écoute, merci Christophe pour ce retour sur le vote électronique et puis la semaine en général d'Apple.
Eh bien, n'oubliez pas de voter. Bon week-end à tous, alors.
Eh oui, n'oubliez pas de voter dimanche. Et puis, on vous souhaite bon week-end et à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de sortie de veille. Salut à tous!